If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Donc on est avec Laure Vallée. Salut Laure.
Salut.
Ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Bah merci en tout cas. Oui, moi ça va bien. Écoute, je suis confiné, j'imagine comme toi aussi. On est tous confinés.
C'est ça. C'est ça.
Ceci dit par rapport au premier confinement, c'est que tu peux quand même aller sur les plateaux, j'ai cru voir, c'est ça ?
Ouais. La grande différence, c'est qu'on peut toujours travailler, en tout cas, ce qui est en télé, ce qui n'était pas le cas lors du premier confinement. Et voilà, ça permet quand même d'aller dehors une fois par semaine, de voir des gens, donc je vais pas me plaindre.
Ok, c'est cool.
C'est un équilibre qui me va pour l'instant.
Donc, tu es aussi connu sur Internet avec ton pseudo de Bully.
Absolument.
Et en gros, pour te présenter assez rapidement, aujourd'hui, tu fais partie des gens qui présentent, qui interviewent, qui font partie des journalistes autour du phénomène e-sportif, n'est-ce pas ? Et notamment du jeu, qui est sans doute le jeu aujourd'hui le plus joué dans le monde, je pense, League of Legends.
Absolument.
Et en gros, aujourd'hui, tu bosses à la fois pour Riot, qui est l'éditeur du jeu vidéo League of Legends, et aussi pour, mais on va en reparler, hein, mais aussi pour la télé, carrément.
Oui. Ça s'est fait un peu par hasard, mais j'imagine qu'on va débroussailler tout ça.
On va en reparler un petit peu.
Ouais. Commencer sur Internet, puis des chaînes de télé qui m'ont approché en 2017 quand elles s'intéressaient à l'e-sport. Et voilà. Donc, j'essaie de toucher un peu à tout. Mais c'est un équilibre qui me va, je trouve. J'aime bien travailler à plusieurs endroits. C'est comme ça que je m'épanouis le plus.
Je me suis un peu renseigné sur ton parcours et tu as l'air d'avoir. Je pense, dans une interview, tu as dit j'ai fait un peu les choses au culot et je pense que ça pourrait être un peu la baseline. de ta carrière jusque-là,
oui.
t'as l'air d'avoir de pas avoir froid aux yeux en fait et de te lancer dans le bain quoi.
Je me dis que la pire chose qui puisse m'arriver, c'est qu'on me dise non en fait généralement. Donc j'ai plutôt eu tendance à toquer gentiment à la porte, voir ce qui se passait et si la porte s'ouvre, bien j'y vais. Sinon, je passe mon chemin. Mais beaucoup de portes se sont ouvertes jusqu'ici, donc j'ai été très chanceuse.
On en reparlera un petit peu après. La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait à quoi tu ressemblais Laure quand tu avais 7-8 ans.
Quand j'avais 7-8 ans, j'étais une petite fille qui courait partout, qui avait beaucoup d'énergie, qui faisait beaucoup de choses. J'ai toujours quelque chose que me disent mes parents, c'est que j'ai toujours été intéressée par pas mal d'activités. Je faisais beaucoup je sais pas si c'est quelque chose qui résonne, les ateliers bleus à l'époque, qu'on avait à l'époque, donc qui étaient des activités extrascolaires. J'ai fait de la danse, j'ai fait énormément de choses, j'ai fait du cirque, j'ai fait beaucoup de sport, de la gym, de la musique. Donc voilà, quand j'avais 7-8 ans, j'explorais un peu partout, pas de façon dangereuse, hein. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'emmenaient un peu partout en voyage, donc vraiment j'ai eu la chance de commencer à découvrir le monde assez tôt. Et j'imagine que c'est le cas de tout le monde, hein. J'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire à l'époque, mais je savais que je voulais faire quelque chose qui me permettrait de voyager. Et du coup, avec le recul, je me dis que j'ai trouvé le bon compromis aujourd'hui. Mais voilà, quand je courais déjà partout et j'allais vers tout le monde, j'étais déjà très très sociable quand j'étais jeune.
Ok. Tu disais que tu faisais de la danse, c'est ça ? Tu faisais de la danse, enfin tu faisais de la compétition ?
De la danse, j'en ai fait à haut niveau, ouais, j'en ai fait pendant pas mal de temps. J'en ai fait 14 ans en tout, je crois. Et ouais, ça s'est un peu arrêté brutalement. Alors avec mes études et aussi avec le fait que j'ai eu un accident de voiture, donc comment dire, quand je m'en suis remise, je me suis pas remise à la danse comme j'aurais pu. Ça m'a fait faire une croix sur pas mal de sports aussi, qui est comme la planche à voile, quelque chose que j'aimais énormément. Mais donc voilà, ouais, la danse c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. C'est peut-être, on va dire, allez, l'activité qui, à côté des jeux vidéo, m'a le plus marqué pendant mon adolescence et mon enfance.
Comment t'en es venu aux jeux vidéo? J'ai cru voir que t'avais
Ah,
des cousins, c'est ça, qui de ta
ouais,
famille?
ça m'a toujours accompagnée. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on a une famille avec pas mal de cousins. On a toujours été assez soudés. On se voyait très souvent le week-end. On avait une espèce de grande maison, en fait, où tout le monde se retrouvait le week-end après, à la sortie de l'école. On partait avec ma famille. Et ouais, eux jouaient aux jeux vidéo. Ils jouaient à beaucoup de choses, en fait. Ils jouaient aux jeux vidéo, ils jouaient à des jeux de plateau. C'était des collectionneurs de Warhammer aussi. Enfin, voilà, vraiment baigné dans l'univers. Et comment dire, ils m'ont un petit peu, enfin ça s'est fait au hasard, tu vois, genre je les embêtais beaucoup, comme à mon habitude. Quand j'étais petite, j'étais vraiment là à taquiner tout le monde. Et ouais, pour me calmer, je sais pas, ils ont dû me donner une manette un jour et j'ai bien aimé. Ou alors je les regardais jouer. J'aimais beaucoup les regarder jouer quand j'étais petite, parce que enfin trop petite, voilà, je savais pas du tout comment faire et j'osais pas, je pense, à l'époque. Et ouais, voilà, ça c'est, enfin comment dire, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui, j'étais pas hardcore gamer, mais c'est quelque chose qui m'a accompagnée vraiment toute ma vie. Contrairement à beaucoup de personnes, mes parents n'ont pas du tout fermer la porte aux jeux vidéo. Au contraire, c'était même eux qui m'achetaient mes consoles à Noël. Ils en ont vraiment fait quelque chose de social entre mon frère et moi, à savoir, voilà, ils nous achetaient nos consoles pour qu'on puisse jouer ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a accompagnée vraiment toute ma vie. J'avais pas pensé que je finirais là-dedans, vraiment. C'est pas du tout une carrière qui m'intéressait même. C'était vraiment plus un passe-temps. Mais ouais, aujourd'hui, avec le recul, ça a du sens et je ne me vois pas avoir. Enfin, j'aurais pas pris un autre chemin, vraiment.
Un petit frère, c'est ça, un grand frère? T'es l'aîné?
Oui, j'ai un petit frère qui est de 97, ouais, qui est un peu plus jeune que moi, qui a 4 ans de moins que moi.
Ok. Comment se passent tes années collège?
Bah, comme tout le monde, je pense, à savoir, c'est un gros mélange d'émotions et de plein de choses. Je trouve que j'ai, enfin, avec le recul, j'ai eu une adolescence qui était vachement cool. J'avais des amis, j'avais un cercle social, j'étais super heureuse avec ma famille. Donc j'ai eu une des adolescences les plus classiques, vraiment. Comment dire, après, comme tout le monde, hein, je pense qu'on se cherchait vraiment. Les années qui ont été peut-être un petit peu difficiles, c'est les années lycée, dont je garde un très bon souvenir toujours. Mais voilà, c'est vraiment le moment où socialement on se trouve pas trop. C'est peut-être le moment où je me suis perdue un petit peu. Et ouais, j'estime que, je sais pas, j'ai peut-être dérivé un petit peu à partir de mes années lycée, et il y a eu une espèce de fracture pendant mes années de fac où j'étais complètement perdue, où je me suis énormément mise en question, et c'est un peu l'e-sport qui m'a retirée vers le haut. Mais sinon, ouais, voilà, une des adolescences les plus classiques, je pense. Lycée parisien, fac,
Ouais.
rien de spécial.
Quand tu parles de fracture, tu parles de quoi exactement?
C'est assez compliqué. J'étais pas très heureuse, je pense, à cette époque-là. C'est un peu, enfin, comment dire, je voulais être commissaire-priseur. Donc, sortie de mon bac L, j'ai commencé une bilicence anglais histoire de l'art, dans laquelle je me plaisais pas et je m'embourbais un petit peu au fil du temps. Enfin, les disciplines me plaisaient, mais j'arrivais pas à trouver vraiment de motivation. Enfin, moi qui à la base adorais aller dans des musées, aller voir des expositions, qui étais hyper curieuse, je voyais que je commençais à y aller à reculons, vraiment, et j'avais un super mauvais feeling. Mais n'ayant jamais vraiment changé de cursus, enfin comment dire, tout a vraiment glissé et coulé dans mon cursus scolaire. Donc on va dire que ce pas à franchir, où je me suis dit il faut que je me reconvertisse, il a été super dur à faire. Ça a pris pas mal de temps. J'ai retapé 2 années de fac, je crois. Ouais, c'était assez laborieux. Et pour finalement me réorienter vers le journalisme, donc qui était une idée que j'avais déjà à la base. À la sortie de mon bac L, en fait, j'hésitais entre ces études d'histoire de l'art et des études de journalisme, mais je me suis orientée vers l'histoire de l'art. Et donc voilà, à l'issue de ma licence, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai passé des concours, et comment dire, c'est cette période de fac où enfin tu vas pas à la fac, donc tu sors beaucoup, donc tu te sens pas vraiment bien, puis t'as les partiels qui arrivent et t'es pas prêt, enfin voilà, j'étais vraiment perdue. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé à jouer League of Legends d'ailleurs, parce que tous mes amis jouaient à ça, et du coup je me suis dit bon allez, quitte à passer des moments avec vous, j'en ai marre d'être seule, donc je vais me mettre à ce jeu que je détestais à la base. En plus, ironiquement, c'est pas du tout un jeu que j'appréciais quand il est sorti. Et ouais, cette espèce de spirale justement un peu de jeux vidéo, enfin comment dire, je me levais le matin, j'allumais LOL, j'éteignais LOL à 3h du mat, j'allais pas en cours, enfin vraiment j'étais un peu perdue. Puis j'ai commencé à m'intéresser à l'e-sport parce que j'aimais beaucoup le jeu, donc je me suis dit ok, enfin apparemment il y a des joueurs qui jouent professionnellement, je veux voir ce qu'ils font. Donc j'ai commencé à regarder les LCS au début, en 2013.
Donc les LCS qui sont l'équivalent des championnats
européens aujourd'hui, voilà, du LEC qui était à Cologne à la base, mais qui est à Berlin aujourd'hui. Donc je commence à regarder ça, je me dis ouais, c'est trop cool. Et un an plus tard, premier événement arrive qui est les All-Stars à Paris, donc auquel je me rends. Et j'en ai souvent parlé de ce moment, c'est le moment où j'ai réalisé que j'étais pas toute seule dans ce zoo, quoi, vraiment, parce que c'est très difficile de se faire une idée de l'ampleur que peut être l'e-sport quand t'es tout seul derrière ton PC à regarder des matchs. Mais se rendre compte au zénith de l'ampleur du fait qu'en fait on était énormément à partager tous cette même passion qu'on comprenait pas trop pour League of Legends, et se réunir autour de ça, c'est vraiment ce qui m'a un peu réveillée. Et voilà, donc quand je dis une fracture, c'était vraiment ce moment-là, quoi, où j'étais hyper perdue dans mes études, où je faisais que jouer, mais j'étais vraiment pas super heureuse dans ma vie. Et c'est ouais, l'e-sport est arrivé et m'a un peu montré que voilà, m'a redonné une passion pour quelque chose. Je pense que c'est important.
Ce qui m'intéresse, c'est que c'est intéressant que tu décide de vouloir devenir commissaire-priseur. C'était quoi? C'était ouais, une vocation que tu avais? Enfin, je veux dire, c'est pas un métier qui tombe comme ça par hasard, quoi.
Alors ça,
j'étais au collège, je sais pas, parce que
j'étais intéressée par l'art, donc je regardais tout ce qui pouvait se faire un petit peu dans les métiers d'art. J'ai été intéressée par l'archéologie à la base, par la conservation, mes parents m'ont emmenée à Drouot, enfin étant dans le notariat, et voilà, je baignais un petit peu dans tout ça aussi.
Tes parents sont notaires, c'est ça?
Ouais, je suis allée à Drouot, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le côté théâtral des commissaires-priseurs. J'avais fait beaucoup de théâtre aussi, donc je crois que c'est un petit peu ce côté-là qui m'avait plu. Puis je suis allée voir pas mal de ventes, etc. Pas forcément en tant qu'acheteuse, mais vraiment vraiment pour découvrir. Et j'ai trouvé ce métier super intéressant. J'ai fait un petit stage chez un commissaire-priseur, et c'est ça qui m'a donné l'envie de potentiellement faire ce métier par la suite. Mais j'étais intéressée pour être commissaire-priseur en anglais. Je sais pas pourquoi. Genre j'ai toujours eu aussi avec mes études cette envie de faire le métier que je ferais, mais dans une autre langue. Et donc, c'est aussi pour ça que j'avais mêlé l'histoire de l'art à l'anglais. C'était parce que mon but, c'était voilà, d'ensuite faire du common law et de partir, je sais pas, chez Soderbergh ou chez Christie's, dans une carrière lointaine. Mais donc, voilà. Et ça, je m'y suis désintéressée en cours de route.
Ok. Mais ça te venait d'y a longtemps? Parce que je me dis que pour que tu mettes deux ans, tu vois, ça, il faut quand même faire le deuil. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses le deuil de cette carrière-là, quoi, c'est ça?
Je dirais que ça me depuis le collège, je pense, j'avais commencé à y penser, et c'est une idée qui a mûri au fil du lycée. Mais ouais, je commençais à m'intéresser aussi au journalisme, donc je me disais pourquoi pas. Mais ouais, l'art vraiment, c'est ce qui primait. Je voulais, en plus, je savais exactement ce que je voulais faire. Je voulais m'occuper d'éventail. Je voulais faire, ouais, voilà. j'étais hyper intéressée. J'ai une collection énorme d'éventails que je tiens de ma grand-mère, et j'étais hyper intéressée par ça. Donc voilà, je voulais être commissaire-priseur et être experte dans les éventails. C'est.
Wow.
Ouais.
C'est très précis.
C'est très précis.
Et tu finis par interviewer
ce gars. Oui, qui... voilà.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire que je trouve que c'est intéressant de voir ton parcours et de te dire bah, que depuis le collège, tu as cette envie-là, et que je pense que tu t'es construit aussi cette image-là peut-être tout au long du bah, collège-lycée, de ce fait-là, et début de fac. Et en fait, de te rendre compte que peut-être une fois que tu te retrouves face à, bah, à faire les études qui t'amènent à devenir, peut-être ça ne matche plus, quoi. Ça doit être dur, non?
C'était ça, ouais, ça matchait plus. Puis je me rendais compte que finalement, je m'orientais plus vers une carrière qui serait peut-être dans un bureau ou pas forcément. Je dis pas du tout ça pour dénigrer, enfin, ou critiquer le milieu de l'art, mais peut-être un milieu un petit peu trop vieux pour moi aussi, d'une certaine manière. Enfin, j'avais quand même ce côté social où j'avais envie de rencontrer des gens, j'avais envie de bouger, j'avais pas l'impression que ça m'épanouirait comme je le souhaitais. Et ça a plus la fac qui honnêtement était une période assez dure. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mes marques à la fac. Encore une fois, peut-être dû aussi à ce côté social. Hein. J'avais pas du tout d'amis, j'arrivais pas du tout à garder de repères. Donc ouais, voilà, c'est ça. Ce mix-là m'a fait décrocher et aussi le fait que j'avais envie de garder ce goût pour l'art. Et ça commençait vraiment à me dégoûter. Mes études faisaient que voilà, il y avait un trop-plein, mais donc voilà, je me suis dit bon, j'ai encore des idées. Tout n'est pas perdu. J'ai 21 ans, je peux très bien changer d'études. C'est quelque chose qui se fait souvent. Mais ouais, ça a été dur de sauter le pas. C'est encore quelque chose qui est dur aujourd'hui, honnêtement, de se jeter dans quelque chose de nouveau. J'ai plus de facilité à le faire, mais à l'époque, ouais, c'est vrai que en étant plus jeune, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à entreprendre.
Donc, tu te diriges vers des études de journaliste, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. J'ai passé plusieurs concours. Finalement, je rentre à l'ESJ, qui était une école très sympa, où j'ai fait beaucoup de très belles rencontres, plus au niveau des profs que des élèves, au final. Je me suis entendue très, très bien avec pas mal de mes profs qui respectaient ce vers quoi je m'orientais, ce qui est rare, je trouve. Enfin, là, on parle de 2015, 2016, 2017, ouais, donc l'histoire était encore un peu timide, ouais, quand même. Et qui était très ouvert par rapport à ce milieu, qui écoutait quand j'en parlais, qui dénigrait pas du tout le fait que on puisse parler de jeux vidéo dans de la presse, tout simplement, ou dans des médias. Est venue cette opportunité après ma deuxième année d'école où j'ai été contactée par Canal+ et beIN Sport qui lançaient leur chaîne de télé. Donc voilà, du coup, j'ai dû aller voir mes parents en leur disant « Bon, on peut pas laisser passer ça, vraiment. » Et mes parents avaient besoin d'être convaincus un petit peu encore à l'époque parce qu'ils voyaient que j'étais passionnée par ça, mais que ça ne me rapportait pas d'argent. Donc forcément, le jour où tu arrives avec... la preuve que voilà, les efforts n'ont pas été vains. J'attendais un soutien de leur part, un soutien qui est venu d'ailleurs. Hein, mes parents m'ont vraiment toujours soutenue dans les choix que je faisais. Le reste, c'était de convaincre l'école que est-ce qu'on peut trouver un arrangement, est-ce que je peux continuer mes études, parce qu'il n'était pas question que je parte sans diplôme. Hein, ça, ma mère ne l'aurait jamais toléré, par contre. Donc voilà, l'école a vraiment été aussi très compréhensive à accepter que je finisse mon étude en remote, donc à distance, et que j'envoie des comptes rendus régulièrement. Et comme ça, ça me permettait de faire mon année donc chez Canal+, qui a été mon premier contrat professionnel dans l'e-sport.
Tu vas un peu vite parce que, en fait, avant tout ça, tu as démarré par écrire plein, enfin, par faire plein de trucs bénévolement.
Oui.
Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que je pense que tu as pas mal taffé gratuitement en faisant aussi tes. Faut dire ce qui est.
Oui, bien sûr.
Mais pour te créer une expérience et pour aller peut-être te péter les dents sur des murs parfois, et que ça fait partie de ton parcours aussi, j'ai l'impression.
C'est vrai, mais à la base, j'ai commencé à écrire des articles justement parce que je prévoyais de faire une école de journalisme et que je me disais, bon, quitte à regarder de l'e-sport, il y a des rédactions qui sont bénévoles, je vais essayer d'écrire un petit peu. Et donc, c'était plus pour m'entraîner, entre guillemets, et faire quelque chose d'utile en dehors de juste regarder des streams, parce que j'étais vraiment intéressée par l'industrie, par l'esport, et j'avais envie de raconter des choses, vraiment. Et donc, de rédaction bénévole en rédaction bénévole, je me rends compte que finalement, ça m'intéresse un petit peu plus que ce que je pensais, un petit peu plus que le côté fun et passe-temps que j'attribue à l'esport pour l'instant. Et donc, j'ai commencé à essayer de me trouver des piges rémunérées, ce qui était très, très difficile en 2014. Parce que le moment où je commence à écrire, c'est vraiment en 2014. Et à l'époque, si on t'envoyait j'étais chez Millennium. Si Millennium m'envoyait un hoodie ou un clavier, c'était le bout du monde, quoi, vraiment. on parlait pas du tout de rémunération.
Je coupe deux secondes, mais en fait, j'ai interviewé Nicolas Morère, tu sais, le cofondateur de Vitality.
Absolument.
Qui raconte justement les années de barrage et de galère financière. En fait, il y a pas de sous, quoi, tout simplement.
Il n'y a pas de sous, mais il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup d'intérêt pour. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à s'investir vraiment juste pour l'amour de l'e-sport, hein, comme on l'entend souvent, c'est la passion, quoi. Mais ça ne me dérangeait pas, en fait. C'est ça, il y avait un peu cet esprit. colonie de vacances, j'ai envie de dire, ou genre cours de récré dans les rédactions bénévoles qu'on avait sur Skype, c'était vraiment quelque chose, enfin le côté guilde un peu, j'adorais quoi. Pas interagir avec des gens que tu connaissais pas réellement, surtout que moi j'ai jamais joué à WoW, tu vois, par exemple, je suis pas du tout de les forums, j'ai pas du tout pratiqué, donc comment
alors,
dire,
WoW,
c'était vraiment ma première
World of Warcraft, c'est ça, c'est
oui, World of Warcraft, exactement.
Des gens qui ne connaissent pas forcément tout.
OK.
Le...
je vais penser à vulgariser, pardon. Comme je l'ai dit au début, j'étais pas vraiment dans cette catégorie hardcore gamer, donc ce côté vraiment regroupement massif de gamers, je commençais à le découvrir au travers des rédactions bénévoles e-sport. Et j'ai été prise dans le tourbillon, vraiment. Et après ça a commencé à m'intéresser d'autant plus. Comme je l'ai dit, en plus, en 2014, à ce moment-là, il y avait aussi les All-Stars, donc premier événement physique, où j'ai vu les casters de loin, les commentateurs. Toutes les personnes qui travaillaient, que ce soit même sur scène, les techniciens, parce qu'on se rend pas compte, en fait, c'est une réelle production. Et quand tu le vois pour la première fois, tu te dis, OK, en fait, ce petit truc que je regarde sur Internet depuis des mois, il y a énormément de personnes qui travaillent dessus. Je me rends compte que je me rends compte physiquement que c'est une industrie. Et je me dis, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une place pour moi dans cette industrie? Parce que ça m'intéresse énormément. Donc, faisant mes études, j'essaye, c'était encore une fois pour ça de manière bénévole, ça me dérangeait pas réellement et beaucoup de personnes m'ont laissé des opportunités et donc bénévole au gaming est venu par la suite, eux aussi m'ont laissé une chance et alors
gaming
je sais pas sur
qui était l'un des au gaming qui a été l'un des tout premières enfin
oui,
l'une des
ça.
Premières boîtes et l'un des premiers sites à diffuser à caster de l'événement et même à organiser d'ailleurs des événements d'e-sport en France quoi.
Rétrospectivement, c'est eux qui ont organisé le premier événement international entre guillemets de League of Legends. Donc ouais, c'est des pionniers, c'est vraiment des pionniers dans le secteur. Ils ont eu tous les mêmes en dehors des plus grands commentateurs, les plus grands streamers aussi de l'industrie, MrMV, Zerator, tout le monde est passé chez WoGaming vraiment. Donc quand une boîte comme ça t'ouvre sa porte, même si c'est pour venir écrire des articles ou juste passer une tête dans un live comme ça, c'est un honneur, vraiment. Donc, au gaming, en tout cas, tout le parcours que j'ai pu avoir avec au gaming, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est une étape importante de tout ce que j'ai pu faire dans l'histoire parce que c'est des personnes, encore une fois, pionnières dans ce secteur. Qui ont fait énormément de choses et qui ont fait confiance à quelqu'un qui était absolument personne, qui faisait n'importe quoi en plateau au début. Enfin, genre, quand je dis n'importe quoi, j'étais vraiment nulle au début. Enfin, quand j'ai regardé des vidéos récemment, à chaque fois, ça me fait mal. Donc ouais, voilà, qui me disent, qui m'ait fait confiance comme ça. Ouais, voilà. Non, mais oui, tout le monde débute. C'est toujours difficile de revoir ces moments-là. Mais qui m'ait fait confiance quand même et qui m'ait laissé le temps de mûrir et de devenir quelque chose au final, ça représente beaucoup pour moi.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-cinés, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Alors, tu rentres chez eux, si je ne me trompe pas, pour remplacer à la base, pour remplacer. En tout cas, il y a Chips et Noix, c'est ça, qui ne sont pas disponibles pour.
Ouais,
Chips
ils étaient en vacances.
C'est leur duo de commentateurs célèbres.
C'est ça.
Et tu viens pour les remplacer pour commenter, parce que là, pour le coup, pour commenter.
C'est ça.
Des matchs en direct pendant la nuit, parce qu'en fait, c'est le championnat américain, c'est ça? Donc c'est
le championnat américain, ouais, c'était le week-end. C'était très, 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 très drôle comme expérience. En fait, un autre commentateur donc, de gaming qui s'appelle Zaboutine était aussi le rédac-chef de la section news de gaming sur lequel j'écrivais beaucoup, beaucoup de papiers. Et on discutait pas mal sur Skype ou sur Discord, je ne sais plus à l'époque, enfin sur notre plateforme de rédaction. Et Chips et Noix était en vacances. Et lui, c'était lui qui commentait absolument tout le championnat américain. Et je lui avais dit que je voulais essayer, donc il me dit bon bah écoute pourquoi pas, vas-y passe, commente une game avec moi, on va voir comment ça va se passer. J'étais terrorisée vraiment. Je me rappelle encore une heure avant de partir au studio, j'hésitais à y aller, j'habitais avec mon ex à l'époque, j'étais là bon est-ce que j'annule, etc. Genre j'étais vraiment terrorisée à l'idée de passer à l'antenne en fait. parce que il y avait tout ce bruit autour du chat Twitch, des personnes qui peuvent être négatives, des personnes sur Internet tout simplement qui peuvent être négatives et les insultes et ce genre de trucs, et ça me faisait vraiment peur. M'exprimer en public me faisait peur aussi, donc voilà, le mix était vraiment pas agréable. Je l'ai fait quand même. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais au final, j'ai passé le moment où je raccroche le micro, j'étais là, ok, c'était cool, c'était vachement cool. Je me suis rendu compte que je ne voudrais pas être commentatrice, mais que faire quelque chose devant la caméra, c'était quelque chose qu'on pourrait explorer. Même si, encore une fois, le résultat, j'étais pas contente spécialement de ce que j'avais fait, mais l'adrénaline et ce qu'on peut ressentir quand on est en caméra, tout du moins au début, c'était quelque chose que j'avais envie d'expérimenter à nouveau.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Donc là, je ne sais pas comment ça se passe en fait, où le moment où tu te dis, bon, ok, en fait, le commentaire, ce n'est pas pour moi. Donc en gros, ça ne m'intéresse pas de commenter le match, quoi. Mais en revanche, j'ai envie de me lancer dans les interviews, quoi. Comment tu fais le switch? Parce que ce n'est pas le même job, hein, du tout.
Alors, les interviews, c'est venu un peu par la suite. C'est venu l'année d'après ou la même année, je ne sais plus, mais je crois que c'est venu après. En fait, j'écrivais déjà pas mal d'articles. J'essayais de faire des interviews de joueurs parce que j'avais envie de poser des questions aux joueurs. Hein. C'est quand tu regardes les parties et quand tu regardes ce qu'ils font, t'as forcément envie de leur demander des choses derrière. Donc viennent les championnats du monde qui étaient en 2015, donc du coup en France. Et encore une fois, c'était avec cette volonté de vouloir faire quelque chose sur l'événement, de vouloir participer, de vouloir contribuer de montrer que je savais faire des choses, mais d'essayer d'en faire en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai proposé au gaming de leur faire. Au gaming sont venus m'approcher pour me proposer de faire des interviews de joueurs. Chose qui m'a énormément surpris parce que j'avais pas d'expérience, que ce soit en interview ou autre. Mais c'est une expérience dont je me rappellerai toute ma vie parce que c'est 2 semaines où j'étais vraiment au cœur de l'événement, au contact des joueurs. J'ai pu interviewer Faker, enfin qui est vraiment une légende du jeu, d'autres légendes du jeu pendant cette période-là. Et là, par contre, en faisant des interviews, en parlant en anglais du coup donc, en renouant avec l'anglais, en renouant avec la salle de presse, ce côté social que j'aimais énormément, en passant 2 semaines avec mon cadreur, pareil, à échanger. Enfin, c'est des rencontres qui sont vraiment super à chaque tournage. Je me suis rendu compte que les interviews, c'était quelque chose que j'avais aussi envie d'explorer parmi d'autres choses, mais encore une fois, ça m'a ouvert une piste. Mais c'est marrant parce que des interviews, j'en ai pas retouché pendant peut-être 2 ans après ça, faute d'opportunité, parce que je me suis orientée vers autre chose. Ogaming, encore une fois, qui m'ont offert la possibilité de, alors cette fois-ci, host les compétitions. Donc, que ce soit les avant, les après-match et ce genre de segment. Ce travail m'empêchait d'aller faire des événements internationaux parce que j'étais à Paris avec Ogaming en train de les faire. Mais pareil, c'est quelque chose que j'ai eu envie d'explorer. Enfin, encore une fois, je le disais au début, j'ai toqué à beaucoup de portes et toutes les portes qui s'ouvraient, je voyais ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas et ce que je pouvais offrir aussi.
D'accord. Vient ensuite cette formidable opportunité de Canal, c'est ça, si je me trompe pas ?
C'est ça, en 2017.
Et en fait, si je ne me trompe pas non plus, je t'ai entendu dire dans une interview que tu étais à deux doigts de raccrocher, de dire en fait, ça me saoule, j'arrive pas à trouver de plan. Ou gagner de sous en tout cas avec.
c'est ça, parce que c'était une très très bonne expérience en caméra, en broadcast pour apprendre, mais c'était pas quelque chose qui me permettait de vivre. À l'époque, les pieds, j'étais vraiment très très maigre et c'est pas que j'avais un peu perdu espoir, mais c'est que je me disais, bon, j'ai peut-être consacré un petit peu moins de temps là-dedans, en tout cas à chercher des opportunités et plus de temps à autre chose. Dans mes études, ce qui m'intéressait, c'était la presse culturelle en général, cinéma, vraiment, gastronomie, tout, l'art, encore une fois. Donc, je gardais un intérêt là-dessus. Et c'est cette opportunité de Canal+, qui est un petit peu tombée par hasard, vraiment. C'était la dernière chose que j'attendais. Et bah du coup, forcément, c'est encore une fois, pour revenir à la discussion que j'avais avec ma mère, comment dire non. Donc là, c'était tout ce travail de convaincre mes parents, convaincre mon école de trouver un moyen de faire fonctionner le tout avec mes études.
Tu racontais d'ailleurs dans cette interview que tu étais un peu saoulée de la façon dont Canal t'avait interpellée, en mode « Ok, t'es une meuf, donc en fait, on a besoin d'une meuf, donc viens. »
Un peu. Mais ça c'est quelque chose qui est un peu symptomatique de l'e-sport en général, c'est que enfin on m'a souvent dit que j'étais un profil qui est rare dans le sens où il y avait pas beaucoup en tout cas de filles à l'époque, il y en a beaucoup plus maintenant, ce qui est super cool. Mais ouais, souvent on retient plus le fait que je sois une fille qui fasse de l'e-sport plutôt que ce que j'apporte à l'e-sport en soi. Et bah effectivement Canal à l'époque il lançait une émission, mais c'est je sais que j'en ai parlé dans une interview, mais après la personne qui m'a dit ça, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai adoré travailler, mais qui venait avec ce langage de télé, genre bon bah on a une émission, il nous faudrait une fille en plateau. Et ça m'a un peu interloqué et j'étais là ok d'accord, est-ce qu'on vient vraiment me chercher ouais voilà pour ce que j'apporte ou pour ce que j'essaye de construire ou alors juste pour le fait que j'apporte de la diversité en plateau.
Mais comme bon. Chez Téléfoot ou Stade 2 quoi, tu vois, il y a toujours une caution féminine quoi historiquement, ouais. À moins maintenant, mais c'est... à l'époque
c'est dur. Ouais, allez, oui, mais quand même, de ce que j'entends du monde du sport, en tout cas, ou du peu que j'ai pu parler avec des consoeurs, si on peut dire, féminines du monde du sport, l'approche reste la même. Et les attentes d'expertise de la part d'une femme seront toujours moindres que celles d'un homme, j'ai l'impression. En tout cas, enfin, c'est pas les mêmes sollicitations, mais ça passe par des choses très simples. Dans une salle de réunion, quand on a une question à poser qui est un peu technique, la question va plutôt toujours aller vers mes collègues masculins plutôt que vers moi ou ce genre de choses. Et c'est des choses qui arrivent encore dans le sport. Donc ouais, c'est des choses qu'on trouve. On s'y fait, on essaye de déconstruire. Après, ça, c'est quelque chose qui vient plus avec l'expérience. Je sais que je m'impose beaucoup plus maintenant. Quand quelque chose peut me heurter, par exemple, de ce côté-là, j'hésite pas à le dire. À dire, ok, les choses ont été faites comme ça. Je pense que je peux apporter ça pour celle et telle raison. Mais ouais, c'est difficile parfois, en tout cas, quand on commence d'être confronté à ce genre de choses. Mais... quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que justement, chez O-Gaming, les gens n'avaient pas cette attitude-là. Et c'était une surprise, j'ai envie de dire. Parce qu'encore une fois, c'était des personnes qui ne me connaissaient pas énormément et j'arrivais en tant qu'inconnue. Et oui, de ce côté-là, ce qui m'a aidée dès le début, c'est que voilà, j'étais traitée comme n'importe quel individu qui participe au broadcast et non pas comme Laure, qui est la fille qui va animer nos plateaux.
Et donc, Si j'ai bien compris, de ton parcours, tu as dû te battre en interne pour faire ta place, mais aussi vis-à-vis du public, qui est, je pense, d'autant plus dur avec toi. Je pense que c'est un gros... je te vois un grand soupir.
Ouais, voilà, là on ouvre.
Ça fait partie des trucs dont il faut causer, parce que justement, on en parlait avec Nicolas Moret dans Vitality, de l'équipe Vitality, pardon, et lui disait qu'il déplorait vraiment l'attitude de certains pans, en fait, de la communauté League of Legends. Et je pense que c'est en parlant, et en fait, d'autant plus en t'en parlant à toi, qui est aux premières loges, que ça va aider à faire prendre conscience du truc, quoi.
Bah, Nicolas a dû en parler peut-être au niveau des équipes, et moi, c'est quelque chose que j'ai constaté en travaillant avec les joueurs justement par la suite. Hein. Les fans sont super violents, même avec les équipes, au moindre résultat, ils vont les épingler sur Twitter, puis c'est vraiment des insultes qui sont difficiles, c'est des menaces très souvent. Il y a toute cette question du degré de langage que les gens emploient sur Internet et de la proximité que les réseaux sociaux peuvent créer. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on subit notamment avec Twitch, avec le chat. Il y a beaucoup de bienveillance. C'est quelque chose non plus qu'il faut pas oublier. Mais effectivement, au début, c'était difficile. J'ai dû passer toutes mes premières années de broadcast, honnêtement, peut-être mes 4 ou 5 premières années de broadcast, à ne jamais regarder ce qui était sur le chat, tout du moins le moins possible, parce que je savais que j'allais y trouver quelque chose. Et de toute façon, quand tu pars en guerre sur Twitch en voulant trouver un commentaire sur toi, tu trouveras toujours quelque chose sur toi. Et oui, les gens sont violents, mais les gens sont violents. Avec le temps, je compare ça à tous les commentaires que je peux voir sur les personnes qui sont exposées et qui sont visibles, en fait. Et c'est... Est-ce que c'est exacerbé dans le jeu vidéo? Peut-être, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est symptomatique de l'industrie audiovisuelle, enfin de l'audiovisuel dans tous les cas. Rien qu'à voir les tweets que n'importe quelle célébrité peut se prendre ou les insultes qu'ils peuvent se prendre, c'est quelque chose qui arrive. Mais oui, effectivement, le degré de proximité qu'on peut avoir sur Twitch, sur toutes les plateformes de streaming avec le chat qui est là constamment et en temps réel. C'est quelque chose qui est difficile à gérer, mais c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour n'importe quelle personnalité qui est exposée. Mais c'est vrai qu'en tant que fille, encore une fois, de par la rareté de mon profil, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dirigées vers moi, qui sont pas tout le temps justifiées, qui sont souvent sexistes, qui sont souvent misogynes, qui vont souvent critiquer mon apparence plus que le fond de ce que je raconte, ou alors tiquer sur des détails d'une phrase tout en notant le contexte pour trouver quelque chose à dire, parce que c'est pas normal selon ces personnes que je sois là. Mais on s'y fait, et c'est en restant là et en prouvant à ces personnes qu'ils n'ont pas raison, en leur donnant pas raison, je pense que c'est ça la clé au final, parce que si tu disparais, l'anonyme devant son chat qui t'a insulté a eu raison et t'a laissé abandonner quelque chose qui est important pour toi. Donc l'e-sport était trop important pour moi pour que je laisse des personnes que je ne connais pas m'affecter autant. Donc je vais pas mentir et dire que c'est parti avec le temps, parce que c'est quelque chose dont je souffre toujours autant et qui m'a fait beaucoup beaucoup de mal, notamment ces dernières années. Mais on s'habitue, malheureusement. j'ai envie de dire on s'habitue, je pense.
Comment tu fais pour t'y habituer? C'est quoi les clés? À part la
clé, c'est d'être bien entouré, je pense. Quelque chose qui m'aide, c'est d'avoir des amis, des collègues qui sont vraiment proches, sur lesquels je peux me reposer. On dit souvent que les avis qu'on doit prendre, c'est ceux des personnes qui t'entourent et pas ceux de la communauté internet. C'est vrai. Donc j'ai envie de dire, se concentrer sur ça, ça aide. Après, j'ai tendance à en avoir rien à faire, on va dire 80% du temps, et il va y avoir ces 20% restants où la cocotte est pleine et où je vais tilt, comme je dis souvent, de n'importe quel commentaire que je vais voir. Et c'est quelque chose, j'y peux rien malheureusement. J'espère que c'est quelque chose que j'arriverai à corriger avec le temps et me faire une carapace assez solide pour en avoir plus rien à faire. Mais c'est un travail en construction. Il y a des progrès, rien que par rapport au moment où j'ai commencé à travailler en anglais. Je pense qu'on va pouvoir en parler. C'est un moment qui a été super super difficile. Mais c'est comme tout, hein. Si on a envie de continuer, si on a envie de s'acharner, et si le but final est plus important que les encombres qu'il peut y avoir, c'est juste un travail sur soi-même. En fait, j'essaye de tirer profit de toutes les expériences que je peux avoir. On va dire que c'est une expérience qui est désagréable, mais j'en ai appris pas mal, notamment sur moi. C'est de la confiance en soi, hein, finalement. C'est ne pas se laisser attaquer par une personne inconnue qui va te dire quelque chose. Ça, on en vient à de la confiance en soi. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Je suis contente des progrès qu'il y a. Mais encore une fois, être bien entouré et travailler sur... savoir pourquoi on fait ça, en fait.
Ouais,
à la fin de la journée, on ne fait pas ça pour eux, on fait ça pour nous. Donc, ce que des personnes peuvent penser... Ça ne veut pas dire que les critiques ne doivent pas être écoutées, hein, vraiment. Mais pareil, apprendre à savoir lire les critiques qui sont pertinentes, ça pareil, c'est un travail qui prend du temps. Aujourd'hui, pour donner un détail, quelque chose sur lequel je travaille, quand je lis des... Moi, je vais les chercher, les commentaires négatifs, maintenant. J'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je vais les chercher. Je passe du temps sur Reddit à chercher ce que les gens peuvent dire sur moi, et même au travers des critiques qui peuvent être les plus dures, essayer de comprendre ce que la personne a pu dire. Il y a des choses qui sont complètement achetées, hein, vraiment. Des insultes sans nom envers moi, ma mère, ou le fait que je sois française. Il y a des choses, je peux rien y faire. Des gens qui ne m'aiment pas parce que je suis française. C'est comme ça.
On en reparlera un peu après.
Mais les Français dans le monde,
sont pas spécialement appréciés.
C'est fou, hein. C'est fou. Je m'en suis rendu compte lors de mes voyages et de mes conversations avec des gens à l'international. Ouais, les Français sont pas très appréciés. C'est le moins qu'on puisse dire.
On passe un peu pour des connards arrogants.
Carrément.
C'est ça.
Carrément. Oui. Et très fiers d'eux. Et ouais, c'est tout ce qui va avec. Mais donc, ouais, voilà, c'est un long travail sur soi-même, je pense. Et j'imagine que ça doit être encore pire pour les personnes qui sont plus exposées. Et j'ai énormément de respect pour toutes ces personnes-là.
Mais c'est pas parce que c'est encore pire pour d'autres gens que c'est pas dur pour toi, quoi, tu vois.
Oui, bien sûr. Mais ça aide à mettre de la mesure et à voir les choses autrement et justement à se demander ok pourquoi tiens si prendre n'importe quel influenceur j'ai vu que tu avais fait un podcast avec Norman notamment
ouais.
Norman lui à sa hauteur ça doit être il a dû lire tout et n'importe quoi et comment est-ce que tu prends le recul justement de ne plus en avoir quelque chose à faire et c'est encore une fois se construire une carapace mettre des filtres ça peut passer par des personnes qui t'entourent des personnes qui gèrent tes réseaux sociaux mais c'est pour ça que je dis c'est peut-être pire pour eux mais voilà qu'est-ce que je peux apprendre de ces personnes là aussi quelles sont les techniques qu'ils emploient comment est-ce que moi aussi je peux me blinder encore une fois tout est histoire d'expérience et
t'as la sensation d'être on a mission, comme ils disent, tu sais, de représentativité, de...
Un petit peu, quelque part, parce que c'est un côté que j'aime pas trop, mais qui va avec ce que je fais. Forcément, quand t'es visible sur les réseaux sociaux, t'as un devoir, entre guillemets, mais qui me dérange pas. En même temps, moi, j'ai envie de donner la meilleure image possible de l'industrie pour laquelle je travaille, parce que j'ai envie que le plus de personnes possible s'intéressent à ce que je fais et à ce qu'on fait, parce que je trouve que l'e-sport, c'est génial et que plus il y a de personnes qui s'intéressent, et mieux ça sera, quoi. Donc, oui, je dirais que je suis on a mission dans ce sens, parce que, t'as envie de faire rayonner le secteur que tu apprécies et de changer cette image un petit peu, parce qu'on va pas se le cacher, mais à chaque fois qu'il y a un média traditionnel qui sort quelque chose, 80% du temps négatif sur le monde du jeu vidéo, c'est chiant parce que ça ne sert, encore une fois, ça sert pas l'industrie et c'est pas forcément représentatif de tout ce que peut être l'univers du jeu vidéo. Donc oui, il y a une croisade, je pense, qui est très dure à mener. Personne n'a la réponse comment réduire cette toxicité qu'on peut avoir sur Internet. Mais je pense que chaque influenceur ou personne visible se doit, entre guillemets, d'être on a mission pour essayer de résoudre ces problèmes.
Tu racontais que... Alors peut-être qu'on y reviendra un peu après, mais tu racontais que tu as carrément fait une thérapie, en fait, après ta première année en anglais, tellement c'était dur pour toi.
Quelques séances de psy, mais qui ont été très bien, qui m'ont apporté beaucoup de choses. Parce que, alors pour récapituler un petit peu, je travaillais sur le broadcast français, donc avec O-Gaming. Il y a eu une finale en 2017 qui était à Bercy, où j'ai demandé à faire les interviews. Donc encore une, c'était la première fois que je refaisais des interviews et c'était la première fois que je faisais une scène. C'était Bercy, c'était très très dur.
Bercy blindé, hein, pour...
Ouais, Bercy blindé. Bercy, je sais plus combien de personnes, il y avait plus de 15 000 personnes dans la salle. C'était fou. J'étais morte de peur à l'idée de faire ça, mais c'est peut-être un des meilleurs souvenirs que je garde, honnêtement.
Et faire les interviews en anglais.
C'est ça. Et suite à ça, j'envoie une candidature spontanée à Riot où je dis c'était cool, merci. Si jamais vous recherchez quelqu'un pour faire les interviews l'an prochain à Berlin, je suis là. Et ils m'ont adoré. Ils m'ont envoyé un message. Ils voulaient me laisser un essai, en tout cas. Donc, la saison se passe. Hein, comme maintenant, en fait, c'était des mails que j'ai envoyés à cette période-là, hein, au mois de novembre, pour la rentrée qui va se passer en janvier. Donc, janvier arrive, je pars à Berlin. Je pars faire ça. Ça se passe très mal parce que, forcément, j'étais super stressée. J'étais pas à l'aise. Et il y a un monde entre être capable de faire une interview en anglais sur scène, en anglais et en français à Bercy, et avoir un niveau de broadcast en anglais, ce qui était attendu de moi, et j'étais pas du tout prête pour ça. Donc j'ai été confrontée à la réalité de ce que je faisais la violence de la communauté, entre guillemets, parce que je sortais d'une période où je m'étais battue contre toute la communauté française en leur disant laissez-moi du temps, je vous promets ça va s'améliorer, les gens commençaient à m'apprécier, pour retomber dans ce côté avec une toute nouvelle communauté beaucoup plus large cette fois-ci, parce qu'on parle d'audience internationale, qui eux étaient beaucoup plus qui avaient beaucoup plus d'attentes, et j'étais vraiment pas au niveau, hein, on va pas se mentir.
Je te coupe, mais il y a 150 000, 200 000 personnes devant les
300 000 aujourd'hui, pour donner des chiffres comparatifs. Après, ça a augmenté, hein, au fil des ans, mais on n'arrive pas loin du million de viewers, de spectateurs, généralement, sur des événements comme ça maintenant. Donc, il y a énormément de monde. J'arrive avec un anglais un petit peu approximatif, un accent français à couper au couteau et un stress énorme. Donc, le résultat n'était vraiment pas beau et j'en dormais pas. Je voulais continuer, encore une fois, parce que je me disais, j'ai pas fait tout ça pour arrêter maintenant. C'était un petit peu un rêve caché, tu vois, d'arriver au LCS, d'arriver à ce niveau de compétition, parce que c'est ce qui se fait plus, de plus haut en broadcast et en compétition de League of Legends. Donc voilà, je rêvais un peu d'arriver à ce poste. C'était pas pour arrêter au moment où j'y arrive, quoi. Donc, ça a été beaucoup de choses de travail sur moi-même pour faire face à ces critiques, pour aussi m'améliorer. Trouver un équilibre entre ma vie en France et ma vie à Berlin, parce que à cette époque c'était des allers-retours toutes les semaines. C'était lundi, mardi, mercredi à Paris, avion le jeudi pour revenir, pour aller à Berlin et revenir en France le dimanche. Donc c'était un rythme qui était dur à suivre. Donc voilà, c'était une nouvelle période qui a été assez compliquée, mais dont j'ai énormément appris. Et bah, effectivement, il y a un moment où je me suis dit bon, je fais des insomnies, je fais énormément de crises d'angoisse, j'ai peur à chaque fois que je vais monter sur scène. Mais donc du coup, il y a rien de bon qu'en sort, que ce soit pour moi, pour mon travail, pour ma santé. Genre c'est pas possible, quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une séance de psy, voir ce qu'elle allait en sortir. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé à faire de la méditation aussi à ce moment-là, ce qui m'a pas mal aidé, ce qui était très très bien pour les insomnies. Et c'est toujours compliqué de parler de séance de psy parce que c'est très unique et c'est comment dire. C'était plus des questions auxquelles j'apprenais à répondre moi-même. Donc elle me mettait sur des pistes que j'essayais d'explorer vraiment moi-même. Et à force de quelques temps et encore une fois beaucoup de travail sur moi, j'ai essayé d'apprendre à surmonter ça. Ça va un peu mieux. C'est pas encore parfait, mais j'ai plus cette boule au ventre à chaque fois que je dois aller travailler, ce qui est déjà très bien. Et non, mais en fait la clé c'était de retrouver du plaisir dans ce que je faisais, en fait, parce que le stress avait pris le dessus. Et honnêtement, aujourd'hui j'ai énormément de plaisir à faire ce travail et je suis très très contente même de ce que je fais. Sortir d'une interview et d'être contente du résultat qui a été délivré, c'est quelque chose que je recherchais. Et voilà, c'est step by step. On va essayer de faire une interview qui soit bien, puis deux, puis trois, puis d'en enchaîner trois, puis d'essayer de faire une journée qui est parfaite. Et voilà, je me suis fixé plein de petits objectifs sur un an et demi, deux ans. Et j'en ai encore énormément pour l'année prochaine et j'en aurai énormément pour l'année d'après. Mais je me suis sortie de cette boule un peu infernale de stress qui me paralysait un petit peu grâce à ces séances.
Ok, ça a l'air d'aller mieux en tout cas.
Carrément, franchement carrément. Je m'amuse beaucoup.
Parce que j'ai vu dans une interview que tu disais que tu avais failli arrêter aussi en 2019 après avoir vu Frankie Ward, c'est ça qui a pris ta place.
C'est ça.
Et
c'est
qui ça. Venait juste pour le fun. Et
ouais,
perdu
venait
ça.
Juste pour le fun et on le sait. Ouais, mais en fait on le savait. Moi j'étais là de façon permanente et le but c'était d'apporter beaucoup plus de saveur au broadcast et de faire venir des personnes comme ça de manière ponctuelle. Et c'était la première fois que quelqu'un depuis moi faisait mon boulot. Et j'étais hyper insécure encore à cette époque, hein, je me prenais beaucoup de critiques et il y a cette fille que j'aime énormément, que j'apprécie beaucoup et qui est une collègue que j'estime énormément, qui arrive avec son anglais parfait de la BBC et qui fait quelque chose que j'aurais jamais été capable de faire. J'ai pleuré chez moi, c'était horrible. Non, j'étais même pas chez moi. En plus, j'étais venue chez WeGaming parce que je savais que si je regardais les matchs toute seule et les interviews toute seule, je me sentirais pas bien. Donc voilà, j'avais un peu anticipé ce truc-là. Et mais elle est fantastique dans son boulot et c'est génial et c'est une énorme source d'inspiration, mais à l'époque c'est quelque chose qui m'a vraiment détruit parce que j'étais là, comment est-ce que je peux retourner à Berlin la semaine prochaine et faire du travail de la qualité de mon travail dont j'étais vraiment pas contente et satisfaite à l'époque. Et encore une fois, hein, c'était la question la veille de prendre l'avion, c'était est-ce que t'as vraiment envie de foutre tout ça en l'air pour de l'ego peut-être, parce qu'il y avait pas mal d'ego je pense dans ma réaction. La réponse a été évidemment non. Ça a été très dur de prendre l'avion, ça a été très dur d'arriver au studio, mais je suis arrivée en étant énervée et j'ai peut-être fait une des meilleures semaines que j'avais fait depuis mes débuts, encore une fois qui n'était pas fantastique mais qui selon mes résultats était, j'en suis sortie, je me suis dit ok d'accord, donc quand t'es énervée ça marche. C'est ce qui m'a remotivée en fait. C'est Frankie m'a fait comprendre que de toute façon je suis ce que je suis, j'apporte ce que j'apporte et j'aurais jamais l'anglais que certaines personnes me demandent d'avoir, mais c'est pas pour autant que je fais du mauvais travail. Et ça, honnêtement, c'est tout bête, hein, mais ça m'a pris un temps fou de le réaliser. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de douter, ça m'arrive d'être mécontente de ce que je fais, mais juste se raccrocher à ça, c'est ce qui m'aide. Si Riot m'a employé à la base, c'est pour ce que je suis en fait. On parlait des réactions de la télé avant. Riot vont vraiment à l'encontre de ça. Ils m'ont vraiment employé pour ma passion pour le jeu, pour mes avis pour le jeu, pour un regard différent que je peux apporter au fait de faire des interviews. Et ouais, Francky m'a peut-être aidé à me rendre compte de la valeur de ma valeur et de ce que j'apportais au broadcast.
Ouais, parce que t'as développé un style en plus avec les années. Tu vois,
Au final, oui.
Je t'ai vu faire parler les mecs en français, etc. Tu vois, c'est des choses que seul toi peux faire, quoi.
Bien sûr. Et c'est ça en fait. On est tous là pour apporter quelque chose de différent. Et bon, après, on en vient à un côté qui est vraiment de broadcast, qui est de créer ta marque et de te créer une identité. Et moi, j'ai de la chance. Enfin, j'essaye pas de me créer une identité. J'essaie juste de faire ce qui me plaît et de faire ce que j'aime. Et les gens ont l'air d'apprécier aussi. Donc, j'ai de la chance de ce côté-là. J'ai vraiment pas à forcer. Et oui, avec le temps, t'apprends à jouer du côté français. Même aujourd'hui, maintenant, quand j'interviewe des joueurs en anglais, et que les joueurs sont français, ce qui est toujours très bizarre, tu vois, quand on tombe l'un en face de l'autre, qu'on est tous les deux français. Mais qu'on doit parler en anglais, jeter un mot de français ici et là, ou vraiment ne pas avoir honte de l'accent que j'ai et de ce que je suis, parce que encore une fois, on a une super mauvaise réputation à l'international, donc je pense qu'il y a aussi pas mal de ça qui peut jouer dans les réactions des gens. Ne pas avoir honte de ce que je suis et de l'accent que je peux avoir, et de pouvoir en jouer et de pouvoir m'amuser avec ça, c'est ce qui fait mon succès, si on peut en parler, enfin si on peut appeler ça un succès au LEC, dans les compétitions
succès,
League of Legends aujourd'hui. Mais ouais, parce que maintenant que j'arrive à m'amuser, j'arrive à penser plus loin et à me dire, enfin à vraiment pas plus prévoir ce que je pourrais faire, mais me projeter encore plus dans les possibilités qui s'offrent à moi. Et c'est fou, moi j'ai vraiment hâte d'être l'année prochaine. Je suis sortie des Worlds là, tu vois. En plus, cette année était particulière parce qu'avec le Covid, on était tous à distance. Donc, faire des interviews à distance avec 2 secondes de délai et des joueurs coréens et un traducteur, c'était un marathon. C'était un marathon, vraiment. Et j'en ai appris. Voilà, donc c'est encore une fois, on a appris énormément de cette année, du nouveau setup. Et j'ai réussi à m'amuser dans cette configuration-là. Donc, ouais, maintenant que ce stress est parti, j'ai très hâte de voir ce que l'avenir me réserve.
Ah, c'est cool. Il y a un autre truc dont je voulais te parler aussi, c'est que je ne sais pas si tu connais le syndrome de la Schtroumpfette. C'est ce fameux, truc où en fait, tu es la seule fille dans un village de mecs, si tu veux, qui fait que historiquement, c'est un vrai, vrai truc qui fait que en fait, les meufs se tirent dans les pattes entre elles. Les places sont tellement chères que tu finis par les autres meufs qui arrivent dans le jeu, si tu veux, tu finis par leur tirer dessus. Ce que je trouve assez fou, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme de sororité assez géniale.
C'est incroyable.
Notamment avec cette, on va dire ta grande sœur, en fait, j'ai l'impression que c'est ta grande sœur.
Ici, ouais, vraiment. Ouais. Vraiment.
Son pseudo, c'est Sjogs, c'est ça?
Sjogs, c'est ça.
qui est belge?
Oui, absolument.
Et qui a quelques années de plus que toi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il t'a vraiment marrainé en fait, dans le milieu. Quoi. Est-ce que tu peux parler un petit peu de votre relation toutes les deux?
Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur Shox. C'est une énorme source d'inspiration. C'est une amie, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. En fait, je regardais les LCS en 2013 et c'est elle qui faisait les interviews à la base. Et je la regardais et j'étais là. Franchement, chapeau. Elle m'inspirait tellement. Elle rayonnait, elle avait l'air super heureuse dans ce qu'elle faisait. Genre, je voyais en fait la passion qu'elle avait quand elle était sur scène, ça me faisait penser à ce que je pouvais ressentir par rapport au jeu. Et j'ai grandi dans l'e-sport en la regardant. Effectivement, c'était un de mes modèles. Et quand je suis arrivée comme un bébé au LCS en 2017 et que elle était là toujours, j'étais alors déjà super impressionnée, honorée de pouvoir bosser avec elle. Mais elle m'a toujours tirée vers le haut, elle m'a toujours aidée, elle a toujours été hyper franche avec moi, ce qui est quelque chose qu'on retrouve peu, dans le sens où ça, c'est quelque chose de très français, je trouve, pour le coup. On est hyper franc. Quand quelque chose au travail ne va pas, on le dit. Les Américains travaillent différemment, je trouve. Et dans les relations de travail, dans les relations sociales, et tout est très bien, tout va très bien, et on ne dit pas forcément quand ça ne va pas. Et Ifieu, dans un monde où beaucoup de personnes étaient comme ça, était la seule, entre guillemets, à vraiment être honnête, ce qui est quelque chose que je value énormément. Et ouais, j'étais surprise qu'elle m'aide autant parce que, honnêtement, c'est la reine. Hein. C'est dans ce monde, dans l'e-sport, c'est vraiment la reine. Et même si tu dois parler d'une personnalité e-sport homme-femme confondue, tu citeras Shox. Beaucoup de personnes citeront Shox. Elle est vraiment emblématique dans ce secteur. Donc ouais, avoir cette personne qui m'a aidée, qui m'a épaulée depuis le jour 1, ça représente énormément pour moi. Mais elle est comme ça avec tout le monde. Et honnêtement, dans l'industrie, j'ai appris à connaître d'autres femmes qui travaillent sur d'autres jeux. Counter-Strike, on peut parler de Smix que tu dois connaître aussi sur StarCraft 2. Pareil, Sue, elle est absolument incroyable. On parlait de Frankie. On est toutes hyper soudées, ce qui est absolument fabuleux parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et justement, on souffre toutes de la même chose. Les critiques que je me prends, elles se prennent les mêmes, peut-être fois 10, fois 100. On se prend les mêmes critiques qui vont dans le même sens, qui vont généralement du même profil de personnes. Donc voilà, qu'on arrive à rester toutes soudées et à céder, c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui m'a beaucoup surpris en arrivant dans l'industrie parce que, comme tu le disais, je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de compétitivité. Et en fait, non, on se rend compte que chacune arrive à trouver sa place et on a déjà du mal à se faire une place nous-mêmes, genre parfois dans les broadcasts dans lesquels on travaille. Donc ouais, je suis contente qu'on se tire battu et Shox, c'est un modèle pour toutes les petites filles qui veulent faire de l'e-sport, honnêtement, c'est...
Mais toi aussi.
J'ai beaucoup de chance.
Si t'es un modèle pour toutes les petites filles qui veulent faire de l'e-sport pour continuer.
C'est gentil.
Non, mais je le pense vraiment. Je pense que ce qui est génial aujourd'hui en 2020, c'est que tu existes, que Shox existe, que en fait, il y a aujourd'hui des filles qui prennent la parole et qui fassent les trucs et qui, en plus, tu vois, comme tu le fais là, je pense que si on a des auditrices sur Histoire de succès qui ont 12, 13 ans, 14 ans ou 15 ans et qui veulent se renseigner, qui vont tomber sur ton histoire, je trouve qu'elle est hyper inspirante, quoi. Tu vois,
c'est très gentil.
Non, c'est très gentil. Je le pense sincèrement.
Je suis tellement contente au fil des ans. En fait, honnêtement, quand je suis arrivée au début, en France en tout cas, j'étais une des seules à faire ça. J'étais une des seules il y a quelques filles qui étaient passées par-ci par-là. Il y a des streameuses évidemment hein, qui sont établies, qui font un travail fabuleux. On peut parler d'Aeterna notamment, qui était une des pionnières dans le domaine. Magla aujourd'hui qui rayonne en France, mais dans l'e-sport comme ça en broadcast, j'étais une des premières. Et je suis contente parce que on est aujourd'hui en 2020. Il y a plein de filles qui se sont lancées, qui ont trouvé leur place, on peut parler de Lox notamment, pour qui j'ai énormément de respect, qui est une fille qui est absolument fabuleuse. Et je suis tellement contente de voir qu'on est de plus en plus à réussir à trouver une place, que ce soit devant la caméra, derrière la caméra, mais juste dans l'e-sport. Les gens se rendent pas compte, en fait. On parle d'un milieu qui est essentiellement masculin. Mais il y a beaucoup de filles qui arrivent, il y a beaucoup de filles qui sont très compétentes et qui ont faim et qui osent y aller. Et c'est un plaisir de les voir vraiment. Et j'espère que ça va continuer en sens parce que encore une fois, je me revois au début quand je commençais à apprécier l'e-sport. J'avais aucune idée qu'il y avait autant de personnes qui appréciaient. Donc aujourd'hui, me rendre compte qu'il y a des filles comme moi qui peuvent avoir la même passion, c'est top. C'est vraiment top. Donc ouais, si des personnes m'écoutent et sont intéressées par l'e-sport, ne lâchez rien. C'est un milieu fabuleux, vraiment.
Et je peux vous conseiller de aussi écouter. Alors tu fais plein de choses, tu fais sur Insta, tu fais des interviews avec des pro gamers, mais il y a aussi cette émission. Alors je sais pas si elle continue ou pas, Scale, avec justement Lox et Lame, mais c'est terminé, c'est ça, non?
Oui, c'est terminé malheureusement, mais c'était une super émission justement, qu'on parlait d'e-sport sans langue de bois, ce qui est rare sur Internet. Et j'ai un projet de refaire une émission e-sport, vraiment. Ça va être un de mes gros chantiers sur 2021, mais de faire quelque chose d'encore plus gros. Garder des personnes qui étaient là dans ce qu'elle. Je veux vraiment réunir toutes les personnes qui sont les plus pertinentes pour parler d'e-sport, qui ont envie de parler d'e-sport. Et aussi, je sais pas si des personnes ont envie de se lancer en caméra, je pense que ça serait l'occasion. Enfin voilà, j'ai quelque chose en tête qu'il faut que je fasse mûrir. Mais Twitch ne restera pas sans émission e-sport, ça c'est une certitude.
Mais en tout cas, il y a quand même une bonne trentaine d'émissions que vous pouvez re-regarder. Ouais. Alors il y a des moments d'actualité, mais il y a aussi des moments un peu plus, on va dire, de débat et d'opinion qui sont hyper intéressants, qui valent.
Et on a reçu beaucoup de personnalités e-sport et même gaming en général, hein, qui sont très intéressantes. Et on parlait de de chroniqueuses, de Lox, etc. Scale, moi, je suis contente parce qu'on a eu, Joyper qui nous a rejoint, qui était une des premières chroniqueuses de Scale. On a eu Hajin aussi, qui maintenant est partie, qui est partie habiter en Corée à nouveau. Lox aussi. Et finalement, c'est pas arrivé souvent sur Twitch qu'on ait une émission où il y ait autant de profils féminin, je trouve, qu'il soit là comme figure principale d'émission. Donc ouais, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et toutes ces filles sont absolument géniales. Donc j'ai hâte de retravailler avec elles.
Ouais, et puis en plus vous étiez co-hosté avec la Mua, qui est sans doute le plus féminin de tous les mecs, tu vois.
Donc, il est l'âme, c'est de mes meilleures rencontres dans ce milieu, vraiment. C'est marrant parce que l'âme, en fait, on s'était croisés dans les couloirs de Webedia et c'est lui qui m'avait dit faudrait qu'on fasse une émission ensemble. Et l'idée avait mûri comme ça et on s'est recroisés, je sais plus, un an plus tard, et c'est de ça qu'est né Scale. C'était d'une discussion de couloir chez Webedia. On s'était dit on aimerait bien bosser ensemble. Ouais, grave, ok, on se fera ça un jour. Et je sais que c'est un projet qu'il aimait beaucoup, c'est un projet que j'aimais beaucoup, donc on bossera ensemble, c'est sûr.
Je vais linker notamment une vidéo, enfin une émission que vous faites sur l'histoire du féminisme, que j'ai trouvé géniale, que je linkerai dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse un petit peu. C'est une bonne porte d'entrée, je trouve, et puis ça donne une idée intéressante de ce que, enfin justement des débats qu'il y a actuellement, quoi, tu vois, de la mouvance. C'est hyper intéressant.
La plupart des gens nous disaient, juste pour finir là-dessus, ce que j'aime bien, c'est que la plupart des gens nous disaient qu'ils ne suivaient pas forcément l'e-sport à la base et qu'à travers cette émission, justement, ils avaient appris à connaître et à découvrir un peu l'industrie. Donc voilà, c'est assez accessible la plupart du temps, donc n'ayez pas peur, il peut y avoir des émissions qui peuvent vous plaire.
Et si vous voulez en savoir plus sur l'âme, j'en profite pour faire une petite promo cross-podcast parce que on l'a interviewé avec Mimi à l'époque dans le Boys Club. Ouais. Et dans un podcast qui s'appelle Aujourd'hui, Histoire de mec, que j'ai repris. Et je trouve que son avis était hyper pertinent. Je mettrai aussi les liens dans les notes. Si ça t'intéresse d'aller l'écouter, toi, je ne sais pas si tu l'as déjà écouté.
Absolument. Ah non, je ne l'ai pas écouté, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont il expose ses idées et les idées qu'il peut avoir.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin 2020, dodo? Enfin non, parce que là tu bosses sur Bean en plus.
Alors je bosse sur Bean, mais ça va. C'est une émission par semaine. Là, je bosse surtout sur des projets perso. Pour 2021, du coup, j'aimerais faire beaucoup plus de vidéos, mais moi-même. Que ce soit des interviews plus longues, parce que finalement c'est frustrant de pouvoir parler aux joueurs que 5 minutes après le match. Donc ouais, voilà, faire des formats d'interviews plus longs, faire des vlogs, refaire des débats, justement parce que Scale s'étant arrêté, c'est quelque chose qui me manque énormément. Donc voilà, plein de projets cool. Je ne fais rien pendant 2 mois. Enfin, quand je vais rester chez moi confinée à réfléchir et brainstormer sur des idées de contenu pour 2021.
Trop bien. Et l'autre truc dont je voulais te parler à la fin, c'est que effectivement, en fait, t'es freelance depuis toujours.
Oui, c'est ça. J'ai toujours été freelance. Et ça encore une fois, ça s'est fait un peu par hasard. Hein. Je travaillais chez Canal, mais j'avais déjà des piges chez Riot que j'avais pas envie d'abandonner. Et je faisais aussi des choses chez Gaming. Donc pareil, c'est des choses que j'ai voulu négocier. Et au final, c'est un équilibre que j'ai bien trouvé en ce temps que je passe à la fois à Berlin, à la fois à Paris, à bosser pour plusieurs personnes. Ça me plaît pour l'instant. Donc tant que j'ai l'énergie pour le faire, je vais continuer. Et il y a qu'en étant freelance qu'on peut faire ça. Donc ça vient avec une grosse dose de stress où on sait pas ce qu'on va faire à 6 mois, mais ça va avec l'industrie qui bouge très vite aussi. Donc très bien.
Ça t'offre une liberté totale, quoi. C'est un vrai truc que tu chéris ça aujourd'hui, cette liberté.
Absolument. Et encore une fois, circonstances particulières, on peut pas voyager, mais début 2020, je commençais à avoir des projets intéressants d'opportunités, que ce soit aux États-Unis ou même en Asie. Donc moi, dans un monde idéal, j'ai la France comme point de chute et je pars aux 4 coins du monde pour travailler tout au long de l'année. Donc c'est vraiment une liberté que je chéris et j'ai hâte qu'on puisse retrouver un monde où on peut voyager. Et explorer, vraiment. C'est tout ce qui me manque actuellement.
C'est tout ce que je te souhaite, Laure. Merci beaucoup d'être venu dans Histoire du succès. Je vais mettre tous les liens où on peut te retrouver effectivement sur Insta. Et puis, j'imagine que toi, pour le renouveau de la saison aussi, sur Twitch où tu communiques en fait sur le fait que quand tu es à l'antenne, plus globalement, c'est Insta. Non, c'est Insta et Twitter, c'est ça tes
Insta et Twitter, surtout. Mais il y aura une chaîne Twitch qui va arriver, une chaîne YouTube qui va arriver. Donc voilà, restez sur Twitter si vous voulez des informations.
Un grand merci à toi, alors.
Merci à toi, Fabrice. Salut. C'était très cool.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.